Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Dans la chronique précédente, nous venions de quitter le continent antarctique en route retour vers la Tasmanie. Aujourd'hui, nous sommes à 24 heures de l'arrivée au port de Hobart, notre destination finale. La traversée de l'océan Austral aura duré 10 jours et n'a pas été des plus paisibles. Noé, le second capitaine, nous raconte tout cela. Donc c'est la fin de la mission, on arrive à Hobart demain matin. Alors Noé, comment s'est passée la traversée retour ?
Bah écoute, ça y est, ouais, il nous reste 80 000 avant de voir les premières côtes de la Tasmanie. Donc là on est le 9 mars. Et puis écoute, on est content d'arriver quand même, hein, après une belle traversée retour qui nous aura pris un peu plus longtemps que prévu. On n'a pas pu aller à Dumont-d'Urville pour des questions de densité de glace, donc on a été suivi par l'Astrolabe. Donc ça, c'était le départ, on va dire, officiel de l'Antarctique, c'est quand on a suivi l'Astrolabe pour qu'il nous ouvre la voie à travers la glace qui est un peu trop dense pour nous. Donc voilà, on a fait un bisou au manchot, on a dit au revoir à l'océan austral du Grand Sud. Puis on s'est mis en route au départ vers le nord, le nord-est, parce que les conditions météo nous indiquaient une première dépression qui arrivait à l'ouest. Donc l'idée c'était de faire de l'est pour pouvoir mettre les voiles au plus vite. Sauf que rapidement on s'est rendu compte qu'après la première dépression, il allait en avoir une deuxième, puis même une troisième, et donc du coup que c'était plus judicieux de se positionner à l'ouest de ces dépressions-là, parce que, bah voilà, dans l'hémisphère sud, généralement elles vont de l'ouest à l'est, et donc si t'es à l'est, tu te les prends toutes les unes après les autres, alors que si t'es à l'ouest, bon bah t'as des chances de juste passer à travers et puis de continuer. Et donc elles ont été confirmées, hein, après 24 ou 48 heures, on a viré de bord, on est parti à l'ouest, et puis là, le vent a commencé à augmenter, on s'est pris la première qui était un peu l'échauffement, hein, on a eu du 40-45 nœuds, une mer qui était un peu courte, mais globalement c'était voilà, l'échauffement. Puis ensuite une deuxième qui était relativement rapide mais un peu plus costaud. Et la dernière à la fin avec une pression qui a chuté en dessous de 960 hectopascales, hein, sur notre centrale météo. Donc mesure le vent, la pression atmosphérique, la température de l'eau, de l'air, l'humidité, etc. On a eu une pression atmosphérique à 958, donc on était vraiment au cœur de la dépression. Et puis on a vu les vents associés, des vents établis à 35-45 nœuds et des rafales qui sont allées jusqu'à 60-65 nœuds. Donc c'était pas de tout repos, la vie à bord commençait à être un peu difficile pour se déplacer, pour le cuisinier c'était vraiment pas une mince affaire, et après même pour la vie à bord, se doucher, se déplacer et tout, c'était vraiment pas facile. Puis l'eau s'est réchauffée petit à petit, au fur et à mesure on avait de moins en moins de glace, on a dit au revoir à notre dernier glaçon, et puis après on a fait route à l'ouest, puis au sud-ouest, puis après au nord, bref on a joué avec le vent et finalement voilà, on est quand même content d'arriver, hein, on va pas se le cacher, on est fatigué, ça fait quand même 2 mois qu'on est les uns sur les autres, donc voilà, on est content d'arriver.
Oui, la route entre la Terre Adélie, Dumont d'Urville et Hobart, en ligne droite, enfin un vol d'oiseau, il y a à peu près 1500 milles, donc 2500 km. Et en faisant des tours et des contours autour des dépressions, en fait, on a fait combien à ton avis ?
Ah oui, c'est ça, 1500 milles théoriques, et puis attends, on va aller vérifier. Ça fait déjà 1600 milles et à ça, il va falloir ajouter les 200 à peu près des dernières 24 heures. Donc tu vois, on va être à 1800 milles à peu près. Et finalement, honnêtement, je m'attendais à plus, hein.
Moi aussi, je pensais que ça avait rallongé plus parce que des fois, on a vraiment tiré des bords. On a même reculé à un moment, on refaisait du sud.
Et oui, c'est ça, on faisait du sud-ouest pour jouer avec le vent. Et une fois de plus, essayer d'aller à l'ouest le plus rapidement possible. On faisait du sud-ouest, donc c'est vrai que moralement ça fait un peu mal, sachant que nous notre cap il est au nord, nord-nord-est. Donc on faisait vraiment route inverse. Mais bon voilà, c'est le jeu aussi d'être un voilier et d'être dans ces contrées-là. On est obligé de jouer avec les éléments. Et donc tu vois, au final on va faire à peu près hein, 1800 milles sur 1500 théoriques. C'est pas énorme, mais allez, on va faire 500 km en plus, sachant qu'on a été quasiment tout à la voile. On faisait encore le bilan tout à l'heure avec Jean-Louis, hein, la consommation sur une mission comme ça, elle est quand même très réduite par rapport aux bateaux conventionnels. Donc on est quand même content globalement de nos statistiques, sachant qu'en plus on a eu des avaries au niveau de la voile, la grand voile elle s'est déchirée. On a eu du gréement, donc ce qui tient les mâts, les câbles en acier qui se sont aussi un peu abîmés. Donc bref, on était un peu en condition dégradée. Et donc malgré ça, on arrive à tenir des belles moyennes, voilà, un voyage assez rapide. Donc non, bilan positif quand même.
Jusqu'à présent, dans nos chroniques, nous avons beaucoup parlé de manips scientifiques, de techniques de navigation en utilisant les outils de prévision météo et glace, de manœuvres de voile. Mais, à bord de Perseverance, nous avons aussi un gros moteur sous les pieds et beaucoup d'autres gadgets techniques dans la salle des machines. Donc Jean, l'officier chef mécanicien, va maintenant nous parler de tout cela.
Salut Hervé, je peux présenter brièvement les installations. Donc on peut commencer par le moteur principal, évidemment, qui assure la propulsion du bateau lorsque le vent ne le permet pas. Pour l'énergie électrique, il y a deux groupes électrogènes. Ensuite, l'eau douce, qui est essentielle, du coup, elle est procurée par deux osmoseurs sur le principe de l'osmose inverse.
Quelle production journalière, les osmoseurs ?
Là, avec un osmoseur, on atteint 150 litres heure. On peut envoyer les deux. Mais il y a des risques en fait de désamorçage dans le mauvais temps et ils ne se complètent pas forcément.
Oui, parce que moi ce qui m'avait surpris sur ce bateau-là, c'est que on n'a pas vraiment à économiser l'eau, contrairement à d'autres bateaux, et même contrairement à la maison, quoi. Et c'est parce qu'il y a une production d'eau qui est carrément impressionnante.
Ouais, tout à fait. On a une production d'eau qui compense largement la consommation d'une vingtaine de personnes. Et en plus de cela, on a une duplication du matériel. Donc on a deux osmoseurs, qui signifie qu'en cas de pépin, on pourra toujours produire de l'eau et toujours consommer de l'eau, même parfois de manière un peu excessive, quoi.
On a à peu près tout en double sur ce bateau. On a deux groupes électrogènes, on a deux osmoseurs. En passerelle, tout le matos de navigation est en double. Sauf, il y a un truc qu'on n'a pas en double, c'est le moteur principal. Et ça pourrait être une garantie de sécurité que malheureusement on n'a pas, quoi.
Tout à fait, c'est l'unique moteur principal. Bon, on peut compter sur les voiles également et le vent pour pouvoir propulser le bateau, mais effectivement, ça rajoute un petit stress, une petite charge mentale. Il faut que le seul et unique moteur principal fonctionne, soit disponible en permanence et soit opérationnel.
Ok, on n'a pas précisé la puissance de ce moteur. C'est un bon gros diesel de 600 chevaux de la marque Baudouin, pour les connaisseurs. Et il est équipé d'un système de traitement des gaz d'échappement qui ne simplifie pas le fonctionnement, hein, Jean. Explique-nous comment ça marche.
Je reviens sur le moteur principal. Donc maintenant, on a des réglementations en termes de pollution de l'atmosphérique, notamment lorsqu'on est amené à venir dans des zones spéciales comme l'Antarctique. Donc ici, le moteur Baudouin, là, il est installé avec un système de traitement des gaz d'échappement, un système SCR. Donc c'est une injection durée, on voit ça maintenant sur quelques moteurs automobiles, une injection durée dans l'échappement, qui a une réaction chimique qui va s'effectuer pour pouvoir réduire la nocivité des gaz d'échappement. Donc on réduit les oxydes d'azote, les oxydes de soufre.
C'est exactement comme l'AdBlue sur les voitures. Et quand on voit les emmerdements qu'on peut avoir avec le système de traitement AdBlue sur les voitures, je pense que toi aussi, tu as des problèmes réguliers avec le traitement urée du Baudouin.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est déjà arrivé plusieurs fois. On a remplacé des cartes électroniques, des automates, des injecteurs d'urée. Effectivement, il y a toute une régulation aussi en termes de dosage, en fonction de la charge du moteur. Il est arrivé plusieurs fois qu'on ait des problèmes. Ouais.
Moi, je me souviens d'une fois, au tout début, au neuvage du bateau, donc alarme sur le traitement d'urée. Le moteur, du coup, est limité à 1000 tours minute de révolution, donc ça veut dire qu'on n'a plus de patates. Et ça se passait en Arctique, au Spitzberg, et c'est des coins où on n'a pas trop envie d'avoir des problèmes qu'on ne pourra pas gérer soi-même. C'est un peu le problème de ces bateaux, enfin moteurs modernes, qui sont gavés d'électronique, d'informatique, où on perd en autonomie à bord, hein, c'est ça ?
Tout à fait, notamment dans des moments un peu critiques comme les manœuvres ou, comme tu le disais, au Spitzberg, dans la glace. Il faut pouvoir avoir une manœuvrabilité quasi parfaite, quoi. Donc d'être limité par ces systèmes électroniques et ces systèmes informatiques, ça peut engager des gros problèmes, effectivement. Ouais.
Et il y a aussi des règles très strictes, hein, pour le rejet des eaux usées en zone antarctique, c'est bien ça ?
Donc ici, persévérance, on a plus de 15 personnes à bord. En zone spéciale, notamment en Antarctique, il y a des réglementations en termes de traitement des eaux noires, des eaux grises, des eaux usées. Donc nous, on est équipé d'une caisse de traitement avec trois compartiments. Le premier compartiment va essayer de réduire en fait les eaux noires avec en fait, des bactéries qui vont se développer. On leur apporte de l'oxygène, elles vont se développer, vont essayer de consommer les excréments. Un second compartiment de décantation, un troisième compartiment de traitement au chlore. Le résultat de cette caisse de traitement est stockée dans une caisse spéciale, et lorsque on est à plus de 12 000 des côtes en Antarctique à une vitesse de minimum 5 nœuds, hein, on peut se permettre du coup de faire des rejets en mer.
Oui, parce que la zone antarctique, c'est au sud du 60e parallèle sud, et il y a des réglementations très strictes sur les rejets, comme Jean vient de le dire, et y compris, alors les poubelles, c'est zéro rejet, évidemment. Pour les eaux usées, on fait très très attention.
Oui, absolument. Ouais. On peut parler aussi des eaux de cale, les eaux qui sont potentiellement polluées par des hydrocarbures. En dessous du 60e parallèle, tout rejet est strictement interdit, donc même avec la présence d'un séparateur à eau mazuteuse.
Merci Jean pour toutes ces explications techniques sur notre fier navire. On n'a pas évoqué les consommations de gasoil parce que Thomas, l'officier navigation, nous en avait déjà parlé dans une chronique précédente. En résumé, quand on marche sous moteur seul à 1500 tours par minute, on consomme environ une tonne de gasoil par jour. Et quand on navigue uniquement à la voile, avec un groupe électrogène en marche, ce qu'on a fait la majeure partie du temps pendant cette mission, on descend à 200 litres par jour. Donc économie d'un facteur 5. Ça réduit d'autant les coûts en euros et aussi en empreinte carbone. Ben, ça vaut vraiment le coup d'être sur un voilier. Et donc, chers auditeurs, à bientôt pour l'arrivée en Tasmanie et la fin de cette mission. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant l'arrière. Voilà, tout devant l'arrière. Tout à fait, on l'a tout devant l'arrière. Ok.
Ah, là, j'ai l'air de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?